Ah, Pierrot, spécial course au trophée.
Les courses au trophée, 2 mois environ, à peine 2 mois de saison régulière sont derrière nous. On va pouvoir commencer à s'intéresser à on en est où dans chaque course au trophée.
Eh oui, vous le connaissez?
Qui tient la corde?
Qui tient la corde? Qui est podium? Comment ça se passe? Vous le connaissez, c'est le classique chaque mois de décembre de chaque année. On a d'abord sur l'ensemble des réseaux de Trash Talk une petite base de réflexion qui est faite sur chaque trophée. Donc si vous êtes notamment sur la piste Trash Talk, eh bien sachez qu'on avait fait pour plusieurs trophées déjà des petites updates. On a le MVP ranking qui est magnifiquement tenu toutes les 15 jours par Nicolas Méchel. On a des trophées justement sur lesquels on revient, et vous le savez, autour de Noël chaque année, on aime bien faire un petit point un peu à, ouais, c'est ça, à 30% de la saison.
Ouais, un tiers, là, on est un bon tiers. Ouais, un
Voilà,
tiers. On
histoire
est
de
un tiers.
poser un petit peu des bases, genre qui est en train de poser son nom dans le podium, parce que c'est un podium final qu'on va avoir.
Voilà. Qui est clairement en tête ou pas? Qui n'est pas tout à fait dans le podium, mais ou poupoup, attention, en fonction de ce qui pourra se passer.
Qui est éligible?
Qui on met sur notre podium aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, au moment où on parle, le gars est encore éligible, mais alors il a intérêt à pas rater beaucoup de matchs.
Je rappelle à ces personnes qui n'ont peut-être pas la référence qu'il faut minimum 65 matchs joués dans une saison régulière pour être éligible au trophée. Important de le rappeler. Parce que sinon, on n'a aucune idée de quoi on parle. Et donc voilà l'idée, vous voyez, deux tasses de café, deux mecs avec des casques sur la tête, et donc vous aussi qu'on attend très fort, parce que c'est toujours la même. Nous, on va balancer nos takes, on a les ardoises qui sont prêtes, on va faire notre petit top 3 sur chaque trophée. Mais à vous aussi de balancer vos avis, parce que peut-être qu'on va être d'accord, peut-être pas du tout.
On va voir.
On va faire tout ça.
Petit changement par rapport à l'année dernière.
Oui, bah on va monter crescendo. En fait,
On
comme
les
vous
groupe.
voyez, là, on fait groupe. Et donc, notamment, on va pas se mentir. Hein. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui sont passées à l'incroyable Pop-Up Sport. Là, récemment, on a eu plein de messages d'amour. C'était formidable. C'est vrai qu'en ce moment, on est sur un run absolument diabolique. Alex essaye de rattraper Wilt Chamberlain 1962. Et donc,
Voilà.
par conséquent, on a dû regrouper les trophées. Il y aura 3 trophées dans cette vidéo. Progression, coach et sixième de l'année. Si vous êtes sage, demain,
Voilà.
puisqu'on est au cul du camion, on aura le rookie et le défenseur de l'année.
Exactement. Et puis on aura une vidéo quand même dédiée à la course au MVP qui, cette année,
Aucun
ma
débat,
foi,
zéro
est
débat.
quand même,
On sait déjà
hein.
qui est.
J'ai eu les représentants, les fiers représentants du lobby Luka Doncic qui sont venus me voir au pop-up ce week-end.
Ah ouais?
Ouais,
Ils
c'était
sont
des discussions
comment en ce
sympas.
moment?
Bah, ils sont confiants. Ils sont là, genre, attends, pardon. T'as vu ce qu'il envoie?
Oh.
Éligibilité déjà, attention.
Attention.
On en reparlera, mais Luka, il a quand même raté quelques matchs, donc on regardera la marge qu'il a, mais il doit plus avoir une grosse marge.
Pas du tout en effet. Et puis on verra si dans l'MVP on parle de meilleur joueur offensif ou meilleur joueur des deux côtés du terrain, comme nous dirait ce cher Victor Wembanyama qui
Tout
nous
à
a
fait.
balancé une belle punchline ce week-end. Vous le savez donc, on est là pour faire la course au trophée. Avant de justement parler de tout ça et notamment revenir sur les critères, je rappelle à la meilleure commu de l'histoire qu'on a un énorme jeu
Énorme.
concours qui a été lancé avec nos poteaux de Paris en Sport. Hier, ce lundi, je vous l'ai annoncé sur le compte Instagram de Trash Talk foncé. C'est dans le premier commentaire de cette vidéo en épinglé. Est-ce que quelqu'un parmi vous souhaite partir avec Bibi à Los Angeles autour du mois de mi-février pour voir et vivre le All-Star Game 2026 à l'Intuit Dome de Los Angeles? C'est un jeu concours extraordinaire qu'on vous propose. C'est
Lourd,
simple,
lourd.
avion, hôtel, 2 places pour le match. Des accès VIP, la totale. Moi, je vous fais la visite de Los Angeles. Ça va être incroyable. Et en plus, là, c'est gratuit. Là, il suffit juste de participer. Enfin,
Il suffit de
c'est les fêtes.
participer.
C'est
Faut
beau.
faire quoi? Faut liker le post, faut s'abonner.
C'est rien, c'est magnifique. Alex pose la question. Eh bien, c'est tout à fait simple. Vous allez sur le post que vous avez en premier commentaire de cette vidéo. Il suffit de le liker, de vous abonner aux deux comptes, celui de Trash Talk et celui de Parents Sport en ligne. Et puis, bah, taguer en commentaire la personne avec qui vous voulez partir.
Voilà.
Alex, tu veux partir avec qui? Toi, avec Léonce?
Moi j'ai joué. Ouais, je pourrais mettre Léon, c'est une bonne idée ça.
Ou un bon pote de longue date, là?
Los
Tu t'es dit,
Angeles,
allez,
en plus
tiens,
on regarde
on va
pas mal, on
faire.
regarde pas mal Los Angeles en plus en ce moment avec Léon. Voilà. C'est vrai que vous êtes
Voilà.
concerné.
Voilà.
Attention d'ailleurs, l'année prochaine c'est à Phoenix.
Je dis ça, je dis rien. Je vais faire prévenir la population.
Mais cette année, c'est la première édition
Ah oui.
du Team US versus Team non-US.
Absolument, USA
Il y
versus
a moyen que ce soit
World.
rigolo,
Il y
hein.
a moyen que ce soit fun. Donc voilà, vous pouvez vous régaler. Tout est disponible sur le compte Instagram de Trash Talk. C'est le premier post épinglé et dans cette vidéo. Venez participer et j'ai très hâte de savoir avec qui je partirai entre le 13 et 17 février à peu près à Los Angeles pour vivre le All-Star Game 2026. On est
Ouais,
bon?
c'est ça, je crois que c'est du 13 au 15, vendredi 13 au...
C'est
C'est
ça.
un vendredi 13, je
C'est
crois.
ça. Absolument. Est-ce qu'on est prêt pour cette course au trophée? Je te propose, Alex, de
on
démarrer.
Commence par lequel?
Avec les progressions.
Okay.
Habituellement, on commence par les rookies, ensuite on fait les progressions, etc. Mais on a packagé les rookies avec les défenseurs. Là, les progressions, Alex, on a une très belle course. Et il faut qu'on rappelle notamment les critères, voilà. Parce que les progressions, déjà rappelons les bases. Est-ce que tu as mis des joueurs sophomores, par exemple, dans ton classement?
Non, mais ce n'est pas vraiment une règle, c'est plus une tradition.
Tout à fait.
Il y a quelques sophomores qui ont été MIP dans l'histoire.
Un petit peu.
Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Je crois qu'il y a Montaelis.
Goran Dragic.
Ouais, voilà. Bêtis, il y a quelques gars. Mais dans l'ensemble, on va considérer que c'est normal de progresser entre ta saison rookie et ta deuxième saison. Parce que la première saison, tu découvres, tu machins. T'as des mecs qui déchirent déjà tout dès la première saison, mais dans l'ensemble, c'est normal qu'il y ait un step. Surtout, ça permet au coach aussi de voir. Peut-être t'es mieux intégré dans l'équipe, dans le collectif en deuxième année. T'as plus de minutes, donc tu peux plus facilement faire des stats.
Ouais.
Parce qu'un autre critère important du MIP, c'est la progression dans la production statistique.
Ah bah.
Si tes minutes augmentent et que tu prends pas plus de rebonds, tu mets pas plus de points, ou je... enfin, du coup, bah non. Si tu as des progressions statistiques qui augmentent fort, mais parce que c'est tes minutes qui augmentent, c'est déjà bien. Tu as aussi des mecs, on leur donne un tout petit peu plus et bim,
tout
production statistique qui explose.
Absolument.
Tu n'as pas forcément besoin de faire exploser ta production statistique dans tous les domaines.
Ah non, non, non.
Mais c'est vrai que, voilà, on regarde. Moi, si tu n'as pas une production statistique significative, j'ai du mal à te foutre MIP.
Du mal, tout à fait. Est-ce que tu es un joueur qui était déjà connu et tu as passé un cap, c'est-à-dire tu es devenu une star,
All-star.
Jeune superstar,
ouais,
et donc,
ça, c'est
puisqu'on parlait de voyage, ouais, All-star, ou est-ce que tu es quelqu'un qui était absolument inconnu du bataillon et soudainement, tu es en train de te faire une carrière respectable? Il y a différents
dans
types.
Dans les deux cas, ça peut marcher.
Dans les deux cas, ça peut marcher. Alors, malheureusement aussi, ceux qui l'ont déjà remporté, c'est compliqué de le remporter une deuxième fois. Hein, parce que là, il y a un garçon, là, il a été déjà MIP. Il fait encore une très belle progression cette saison. Je pense à Thérèse Maxi, hein, mais je crois
non,
que ça va être compliqué.
Non, moi je ne l'ai même pas mis dans ma liste.
Voilà,
pour moi,
faut respecter le...
non, puis c'est un autre level, c'est un autre délire. Je ne dis pas ouais, qu'il n'a pas progressé. Il a progressé, mais non. Mais par contre, tu as aussi des cas de figure ou des choses plus intangibles, on va dire. Par exemple, est-ce que ton niveau de responsabilité a augmenté et t'assumes? C'est-à-dire que non seulement ta production statistique, bah, elle est supérieure,
ouais,
mais en plus ça se fait dans un contexte où tu as un peu plus la pression, les défenses elles sont un peu plus sur ton cul.
Absolument.
Et bah, ça change pas grand chose,
ouais,
enfin, ou tu vois, en tout cas t'as progressé. Est-ce que t'as progressé des deux côtés du terrain ou c'est juste ta production de passes et de points? C'est déjà bien, hein, attention. Mais est-ce qu'en défense t'es devenu,
ouais,
genre il y avait Bastien de Trachto qui disait je suis un peu sceptique, et en fait t'es le pilier d'une des meilleures défenses de la ligue, le pilier, en tout cas t'es au centre d'une des meilleures défenses de la ligue, au hasard. Tu vois, ça peut être un critère.
Je vois pas du tout de qui tu parles.
Et effectivement, Bastien, t'as raison. Bah oui, les mecs, on savait pas trop où les situer en début de saison. Puis là, en janvier, on va les voter pour être All-Star. Bon, bah oui, c'est un critère,
bon,
aussi.
Bah, c'est énorme, évidemment. Et puis alors, le dernier, mais qui pour moi est un... J'ai très hâte de voir ta tête, Alex, parce que c'est un critère absolument déterminant. Est-ce que tu deviens un pic TTFL? Parce que là, attention, il y a des garçons. Eh, quand même, hein, on parle de statistiques et de progression. Il y a des garçons l'année dernière, ni toi ni moi, on aurait pu imaginer les mettre une seule fois.
Exactement.
Dans un deck.
Maintenant, on les pose tous les mois.
Aujourd'hui,
mois,
on est d'accord.
Ouais, une fois par mois, tu cherches son spot.
Il y a des gars qui deviennent quand même des sacrées options.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Comment une fois que vous prenez tout ça.
Voilà, c'est ça.
Une fois que vous prenez tout ça.
Qu'est-ce qu'on fait? On prend la tablette.
Tablette.
Ouais.
Tout à fait.
Tablette, j'ai la moi.
Et on va pouvoir inscrire trois noms. On va mettre le 1, le
2
et le 3. On va faire ça. Et ensuite, une fois qu'on aura débattu, on pourra peut-être donner des mentions un petit peu de la love,
bah,
à certains joueurs.
Je dois avouer,
pas
moi, tu vois, j'ai un podium, évidemment. J'ai cinq vrais noms. J'ai cinq noms.
Ouais.
Pour trois places, quoi. Hein.
Okay.
J'ai cinq noms où... bah, j'ai galéré. J'ai galéré à les classer.
Eh ben, écoute, on va voir ça tout de suite.
Ouais.
Moi, j'ai un top 3. J'ai très hâte de voir ta réaction et les vôtres. Parce qu'il y a notamment un garçon que j'aime tout à fait particulièrement. Alors Alex, il a mis A.
J'ai mis Jalen Duren.
Jalen
Johnson.
Le même. Tout à fait.
J'ai mis Avdija, j'ai mis Austin Reeves.
Absolument.
On a les deux Jalen, tous les deux en 1 et en 2 dans
la
le
team,
même ordre.
La team Jalen, ouais, est en train d'avoir, ouais, le lead sur la MIP, on est d'accord.
Et j'anticipe tout de suite les éventuelles critiques sur le fait de mettre Jalen Duren en 1. Mais du coup, je pense que tu es d'accord avec moi. Quelque part, il n'a pas tellement progressé au rebond ou au contre,
ah non,
ou quoi. Statistiquement, il a énormément progressé au scoring,
mais c'est
pris ses responsabilités. Ouais. Et pardon, mais juste, les Pistons ont la deuxième meilleure défense de la ligue. je crois, ou la troisième en rating, un truc comme ça. En tout cas, un truc très élevé. Les Pistons jouent dur et tout. Il y a des joueurs. C'est pas Jalen Duren que je vais mettre dans ma course au Deep Boy. Hein.
Si je dois prendre un joueur des Pistons.
Si je dois prendre d'ailleurs un joueur. Ou alors son ailier titulaire aussi.
Tout à fait.
Son ailier titulaire, ils discutent. Enfin, voilà.
Ouais.
Ce que je veux dire, c'est qu'il est très bien entouré par des bons défenseurs, mais en tant que pivot. C'est à lui dont je, à, auquel je faisais référence quand je parlais de Bastien. C'est qu'on s'était, moi j'ai toujours kiffé. Toi t'étais un peu plus sur la retenue,
ah bah ouais,
en mode
bien sûr.
Ah, défense. Et j'étais d'accord. Voilà. Mais même moi-même qui était dans le train entre guillemets, parce que je kiffe ce genre de joueur, j'avoue, je suis surpris par les efforts de placement, les efforts de contestation de cercle, la régularité au rebond. Et donc, et au rebond offensif, l'autre c'est un grand malade,
ouais, ouais, ouais.
Ce qu'il vient faire au rebond offensif. Donc tout ça fait partie d'une une progression globale qui fait que si les Pistons continuent à être vraiment numéro 1 de l'Est avec de la tête et des épaules, là, hein. Je te dis pas que les Knicks, on parlera des Knicks peut-être plus tard cette semaine ou quoi, mais on va peut-être avoir envie de dire, bah il y a peut-être deux All-Stars.
Il y a peut-être deux All-Stars.
Et ben le deuxième All-Star dans ce cas-là, ce serait Jalen Duren.
Ce n'est pas Danis Jenkins, on est d'accord. Je l'ai en
numéro. Qui fait
du
très bon boulot. Te moque pas de Danis Jenkins.
Attention. Absolument pas. On va en parler dans un autre trophée d'ailleurs de toute façon. Monsieur Jalen Duren que j'ai mis également en 1. On va parler après des 2 et 3 et des autres mentions. Je suis d'accord. Pour moi, c'est le leader. Alors l'écart n'est pas énorme avec les autres, hein, parce que Dieu sait si cette course elle est belle, il y a des très très beaux garçons.
Avdija, c'était vraiment à la bataille avec Reeves.
Moi,
et
il
moi
a failli être
si tu veux tout savoir, j'avais même Guidi dans cette discussion.
Et Ryan Rollins aussi, qui est, enfin de toute façon on va en parler de.
Et Ryan Rollins, j'avais un tout petit peu derrière, mais j'avais vraiment Guidi dans le sens où je l'évacue comme ça vu que tu l'as pas mis non plus, dans le sens où Josh Guidi. Comme ça, on va pouvoir parler Reeves, Avdija, Jalen Johnson, tout ça. Mais Guidi, bah le problème là, qui pâtit. Il pâtit parce qu'il joue aux Bulls et que ça va plus du tout et que c'est compliqué, que l'entente avec Kobe White, Donovan a du mal, mais sur le début de saison, Guidi honorait son nouveau contrat,
c'était énorme.
Il est pas loin du triple double de moyenne, il produit beaucoup. Malheureusement pour lui, les autres là qu'on met, que ce soit Avdija ou Reeves sur votre podium ou quoi, les autres là, ça envoie du sale. Les Hawks un peu moins, mais sinon dans des équipes performantes.
Ouais, tout à fait.
Les Hawks et les Blazers un peu moins.
Non,
mais sinon, je veux dire, moi, c'est pour ça que j'ai mis Reeves aussi, notamment. Mais bon.
Jalen Duren, pour revenir sur lui.
Ouais.
Moi, je l'ai mis aussi en 1 parce qu'on peut parler autant qu'on veut et j'ai hâte d'avoir notamment le ressenti des fans des Pistons. Et les gens qui ont affronté les Pistons récemment, je pense notamment à Boston là, récemment qui a dû se farcir ce monstre physique, athlétique et désormais technique, parce que c'est un gars qui avait du jeu de passe et une certaine aisance balle en main.
Il y a des bons flashs à la passe,
mais là cette saison, moi je suis complètement choqué de voir tous les soirs Jalen Duren devenir une arme sérieuse offensive des Pistons. C'est-à-dire que il y a, comme j'en ai parlé au début de saison, des pick and roll inversés où c'est un externe qui pose un écran pour Jalen Duren qui va driver et de par sa force physique provoquer deux lancers au 1-1.
Je pensais pas qu'il avait ce handle de 3-4 dribbles propres. Je pensais pas non plus.
Là il y a des balles où il lui donne la balle à 4-5 mètres, il size up son défenseur, il pose 3 dribbles entre ses jambes, il fait un in and out, il va au panier, il a un 1-1. Offensivement, c'est une progression énorme et qui d'ailleurs
se voit dans les chiffres, parce que il est passé de 10-11 points à 18 points par match, un truc comme ça.
Je vais vous les mettre, absolument. Il était à 12 points et 10 rebonds et il est à 18 points et 11 rebonds.
Au rebond, ça n'a pas trop bougé. À la passe, ça a un peu baissé, mais c'est aussi le jeu des Pistons qui est différent.
Oui.
Il perd un peu plus de ballon, c'est normal, parce qu'aussi son usage rate a augmenté.
A augmenté.
Mais il traduit une augmentation assez nette de minutes par une grosse augmentation au scoring.
Et notamment au lancer, ça a doublé.
De meilleures performances en défense, dans tout ça dans une équipe qui gagne.
Ouais.
À quel âge il a, 21 ans lui?
Ou
22?
Il doit avoir 22 piges.
Parce que c'est sa troisième, quatrième année de NBA, il a 22 ans.
Non mais Jalen Duren, oui, ça a été serré. Pendant un moment, j'avais Monsieur Jalen Johnson en 1. Extraordinaire avec lui. Avec les Hawks sur ce début de saison, évidemment, hein, Jalen Johnson, on en parle tellement que c'est la team Jalen, hein, tout à fait. Jalen Johnson, on peut en parler un petit peu parce que moi, tu te doutes bien, j'adore ce joueur. En fait, si je le mets en deux, c'est que l'année dernière, on avait vu des prémices d'un Jalen Johnson qui avait tout ce talent.
Il est dans la continuité.
Et il était c'est à une continuité plus, mais
oui,
on avait déjà des belles bases.
Oui.
Il y avait 20 points, 10 rebonds, 5 passes avant sa blessure. Là, il revient, il démarre la saison, Trae Young se blesse, l'équipe va bien et c'est lui vraiment l'option numéro 1. Tu sens qu'il a bossé avec LeBron cet été, c'est vraiment cette espèce de point forward qui fait tout. Hein. Okongwu ne fait pas sa saison pour rien, c'est aussi parce qu'il a un point forward qui le nourrit à des très bons moments. Nicky Alexander-Walker,
les Hawks tiennent la route sans Trae Young.
Exactement.
Genre, je sais qu'il n'y a pas que des amateurs de Trae Young, mais enfin quand même, c'est quand même un bel exploit.
Tout à fait. Et j'avoue que là où il a failli être un pendant un moment, c'est que je ne pensais pas, Alex, qu'avant Noël, je me dirais, et tu sais ce que je ressens pour Trae Young, hein, que la progression, notamment de Jalen Johnson, te permet de considérer différemment l'avenir et les rumeurs autour de Trae Young.
Je vois.
Moi, ça, c'était quelque chose que je n'avais pas du tout prévu.
Je suis d'accord. Après, doucement, quand même.
Oui.
Mais
j'étais envisagé.
Tu as aussi Nickel Alexander-Walker qui joue là-dedans.
On est d'accord, j'ai dit envisagé différemment.
Oui, bien sûr, j'ai bien compris.
Il y a quelques mois, c'était inenvisageable.
Non, mais c'est sûr. La progression au scoring est vraiment belle. À titre perso, j'attendais quelque chose comme ça. Je veux dire, Jalen Johnson jouait 35 minutes ou 36 minutes par match la saison dernière avant de se blesser. Comme tu l'as dit, Bastien, il était en 19-20 points, 10 rebonds, 5 passes. On savait qu'il pouvait scorer. C'est dur de l'empêcher de driver. Il a un vrai bout de shoot. Enfin, voilà. Donc là, il est passé à 23 points. C'est super et tout. Non, moi, il maintient les rebonds, donc il continue à bosser. Et en playmaking, avec les responsabilités qu'il a, waouh, super. Super. Là, c'est belle progression parce que sur le papier, c'est moins impressionnant parce que t'as 3 passes d'aise de plus, mais en fait c'est beaucoup 3 passes d'aise de plus.
C'est énorme.
C'est beaucoup de points générés.
Il y a du triple double, plus quoi ça va en faire.
Exactement. Après moi, ce qui le laisse un petit peu derrière Jalen Duren, pour le coup, c'est que Jalen Duren, lui, il a une responsabilité importante également en défense vu qu'il est pivot. Là où Jalen Johnson en défense, ça se fait blow-by, ça joue le rebond plutôt que l'aide, c'est complètement différent.
Pas la même responsabilité offensive, hein. Jalen Johnson doit tellement dépenser en attaque parce que toutes les équipes en fait convergent autour de lui que du coup en effet il a cet aspect là, hein. Il y a parfois du mid-range qui a retravaillé, il a bien progressé à 3 points mais surtout dans le jeu à 2 points parfois c'est un peu dubitatif. Je suis d'accord, mais quelle saison et quelle progression. C'est peut-être deux garçons qui vont être All-Star, les deux Jalen, Duren et Johnson. En tout cas, ils font tout ce qu'il faut pour l'être dans la conversation des new All-Stars. Ils y sont,
ils ont tous les deux leur chance.
Ouais,
ce sera pas facile qu'il y ait de la place pour tout le monde parce que à plus avec le nouveau système et tout, on va regarder comment ça va se bricoler, mais du coup forcément ça laisse moins de place pour ces deux joueurs qui sont américains quelque part indirectement. Donc on va voir, mais en plus ils sont en concurrence directe, hein, dans les forwards tous les deux.
Ouais.
Donc en fait ils ont tous les deux, Jalen Johnson est sur le papier le All-Star d'Atlanta.
Oui.
Et Jalen Duren, si les Pistons continuent à démater comme ça l'Est et tout, il y a des gens qui vont avoir envie de donner deux All-Stars à Détroit. Et donc, dans ce cas-là, voilà. Donc, ils ont tous les deux des bons arguments.
Des très, très belles performances de la part donc, de Jalen Duren et Jalen Johnson. Je vous les remontre ici. Jalen Duren, donc, qui est passé de 11 points à 18 points de moyenne avec toujours autant de rebonds. Et vraiment, j'insiste, regardez les Pistons jouer parce que le garçon qu'on a vu il y a 2 ans, ça n'a rien à voir. Et je vous montre évidemment Jalen Johnson au niveau statistique, blablabla, bougez pas s'il vous plaît messieurs, dames. Voilà, on est passé vraiment de 19 points, 10 rebonds et 5 passes à 23 points, 10 rebonds et 8 passes
dans le
avec,
même temps de jeu.
Toujours ce même temps de jeu.
Et des pourcentages, au shoot qui augmentent. Hein.
3 points, il est à
quel,
il est en
sérieusement.
Total.
Hein.
Ouais, il est en 50, 39, 80, ouais. Là, c'est terrible. Et donc en troisième, toi tu as mis Austin Reeves.
Moi j'ai mis Austin Reeves, ouais. Ouais, j'ai mis Austin Reeves. J'ai hésité, je te dis. J'avais vraiment Avdija. J'avais aussi Guidi dans ma tête, mais Guidi est vite sorti. Après, il y avait la bataille avec Avdija. Ouais, j'ai mis Austin Reeves. Ouais. Austin Reeves. Au milieu du début de saison des Lakers.
Ça, c'est de 20 à 28 points de moyenne. Hein.
D'abord, sans LeBron James. Regarde les lancers. Il y a une prise de responsabilité. Alors, évidemment, offensive. Austin Reeves en défense, doucement. C'est aussi pour ça qu'il ne peut pas passer devant les deux d'au-dessus. Mais ce que fait Austin Reeves chez les Lakers, Austin Reeves, il est chez les Lakers. J'aime bien Détroit, mais il y a un côté darling, un peu surprise de les voir en haut de l'Est. On est d'accord ou pas? Et les Hawks, si vous finissez au play-in, ça changera rien au jugement qu'on a de la saison de Jalen Johnson. T'es d'accord? Alors que Austin Reeves, non pas que ça soit lui la tête d'affiche des Lakers, c'est pas ce que je dis, mais dans un début de saison où il manquait LeBron, puis il y a eu une petite blessure de Doncic. Ça lui a donné l'espace. Là, Austin Reeves, il a dit...
Donnez-moi les Kings, je vais en mettre 50.
Mais il a dit, regardez-moi bien les frères, il faut penser à moi dans la course au meilleur arrière. Je ne dis pas que c'est le meilleur arrière de la Ligue 1.
Oh non.
Juste, il faut penser à moi dans cette course. En termes de shoot, moi, je trouve qu'à la création, il a vraiment progressé. C'est mieux, les choix, c'est incroyable. Et surtout, c'est là où tu sens qu'il s'entraîne avec des joueurs offensifs immenses, hein, que sont LeBron ou Luka Doncic. Alors que là, la qualité pour aller chercher des lancers maintenant de Austin Reeves. En ISO, Austin Reeves, honnêtement...
C'est chaud.
Avec LeBron qui vieillit, t'as Luka Doncic, hein, qui est un joueur d'ISO. Bon, je dis, Austin Reeves n'est pas dans cette cour. Il n'y a pas grand monde dans la cour de Luka Doncic en ISO. Mais par contre, demain, t'as un ballon pour finir le match. Et admettons, LeBron James, il est blessé, ou il n'est pas là, ou il n'est pas en forme, ou quoi. Bref, on s'en fout.
Ils l'ont déjà fait.
Oh, bon, tu donnes les ballons à Austin Reeves. Hein, en fin de match, il va te faire les bons choix. Il va aller te chercher les bons écrans. Il va te foutre les grands sur des îles désertes. Il va ou leur shooter sur le museau, ou les blow-by. Moi, j'ai été très impressionné par... la qualité offensive au scoring, c'est vraiment un bucket getter de haut niveau.
En fait,
en début de carrière, je me serais un peu plus attendu de dire un putain de sixième homme incroyable. Non, Austin Reeves, honnêtement, c'est un vrai titulaire NBA. Et si tu le mets à côté, parce que là il est à côté de Luka Doncic qui est un meneur mais score first, qui fait des passes et tout. Si demain tu le mets à côté d'un meneur plus dans la gestion, la défense, le rebond et la passe, et que c'est lui l'option offensive numéro 1, bah, tu sais quoi, en fonction de ce que tu mets autour, t'as un Austin Reeves à 30 points par match, hein.
Tu peux.
C'est tout à fait envisageable.
Et c'est une phrase assez énorme, hein.
Avec des bons pourcentages, je veux dire, Austin Reeves est un vrai bon shooter. Il est à 50% au tir, 36-37% de loin, enfin je veux dire, avec 9 lancers par match. Enfin,
ouais.
Non, du coup, je l'ai mis podium. Ce qui m'a fait pencher, comme ça, je te transitionne vers Avdija. Moi, ce qui m'a fait pencher pour Austin Reeves, c'est le fait que Austin Reeves, je pense pas que sa progression statistique soit foncièrement meilleure que celle d'Avdija. Parce que, non, Avdija, tu vas nous en parler,
c'est chaud.
Je suis d'accord. En revanche, il fait ça dans un contexte où c'est plus dur de progresser pour moi.
Ouais.
C'est plus dur, il y a plus de pression, on l'attend, les résultats. Quand il n'y a pas Luka ni LeBron, bah, les défenses sont complètement sur lui. Enfin, tu vois. Et Avdija, bon, les Blazers, c'est coup-ci, coup-ça. Après, ils ont des problèmes de coaching et ce n'est pas du tout de la faute d'Avdija, mais
non, je comprends.
Pour moi, c'est des contextes qui n'ont rien à voir.
Moi, je t'avoue que Austin Reeves, le truc qui m'intrigue le plus, vu comment il démarre, c'est un, ce qui va se passer sur la fin de saison au niveau défensif, parce qu'on sait que c'est une des interrogations à LA, hein, c'est cette formidable machine offensive, mais avec des vraies interrogations défensives. Hein. Moi, j'en ai parlé beaucoup avec des fans des Lakers qui sont venus là au pop-up. C'est bon, on est fort, les gars, en attaque, mais pour arrêter du monde, on n'a pas encore ça. Et puis, bah, la prolongation de contrat. C'est-à-dire que là, Austin Reeves, c'est quand même un mec, on en a parlé, il fait partie des meilleurs contrats de cette saison en NBA.
Il est en player option. Ah,
attention,
hein, si vous n'avez pas.
Spoiler, il ne va pas la prendre. Hein.
Ah, 15 millions, ça, c'est sûr qu'il va prendre un plus gros contrat.
Voilà.
Hein.
Et combien coûte Austin Reeves, vu sa progression? Ça me fascine.
Mais c'est quoi le rapport avec le trophée, du coup?
Rien, c'est juste un des éléments qui suit,
En fait,
je faisais ce side note pour dire que Jane Johnson est un garçon qui a prolongé précédemment, on a parlé d'un des meilleurs contrats d'NBA, il a 30 millions la saison pendant 5 ans, et il fait ce bond de progression. Jane Duren n'a pas été prolongé par les Pistons,
Jane Duren, je peux dire qu'elle...
et est en train d'aller chercher cet argent.
Ah, bah là.
Et Austin Reeves est en train de chercher cet argent, et en fait je faisais juste ce petit clin d'œil, parce que tu sais, parfois Alex, on voit des joueurs aussi en situation contractuelle qui font
contractière.
Ces jumps-là, Austin Reeves et Jane Duren y sont, ce qui n'est pas le cas de Denis Avdija. Denis Avdija, lui, il a été prolongé, il a un des meilleurs contrats de toute la nuit. On avait dit quoi, c'était 15 millions la saison.
Il a progressé partout, Denis Avdija, sauf au rebond, où c'est ISO au rebond. Au rebond, c'est ISO. Les minutes, les pourcentages au tir, c'est à peu près pareil. Et les rebonds, c'est à peu près pareil. Par contre, en scoring.
En tout, en fait. Moi, quand je regarde Denis Avdija jouer, je vous avoue que on avait vu déjà le potentiel en équipe nationale. On avait vu sur le run de fin de saison
l'année dernière,
ce que ça pouvait donner. Mais là, honnêtement, moi, les soirs où il n'est pas à 25 points, 5 rebonds, 5 passes, c'est bah voilà. Il est à 25,5 points, 7,2 rebonds, 6,3 passes, avec 10 lancers francs quasiment provoqués par match, 80% de réussite au lancer. Il y a quelques bons 3 points.
Hein. Ah,
c'est
ouais.
37% et
47%. Si tu dis, il shootait déjà bien l'année d'avant, regarde. Hein,
ouais,
il shoot
bien.
Ça fait 3 saisons qu'il shoot bien.
En pénétration, les choix sont excellents. Il comprend parfaitement son corps. Et donc, le fait que c'est bizarre comme match-up parce qu'il est grand et costaud. Et en même temps, il a dû toucher. Et je trouve que dans le jeu, Avdija, Austin Reeves, je trouve, fait une version plus de ce qu'on avait pu voir. Vraiment, Avdija, je suis halluciné. Il y a des soirs où il y a un paquet de très bons ailiers en NBA, où il se ramène sur le terrain, et c'est vraiment le meilleur ailier, quoi. C'est-à-dire que pour rendre des ballons à Donovan Klingan ou à d'autres garçons sur les ailes, donnez-moi la balle et je vais m'en sortir. S'il faut gérer des money time entiers, bah, tu sais qu'aujourd'hui, tu as 15 possessions de Avdija avec un écran. Je suis très serein dans la
NBA. C'est très dangereux, en tout cas.
Ça, oh la sûr. Vache.
Non, il a beaucoup progressé. Il a progressé scoring. Énorme. Scoring, un peu comme Jalen Johnson. Il a progressé au scoring fortement.
Il est passé de 17 à 25 points de moyenne.
Ouais, et attend de combien en passe ? Il a doublé. Hein. Non, il n'a pas doublé.
Et il est passé de 4 à 6.
Il n'est pas doublé, mais il a bien progressé.
Ouais.
C'est une progression qui se compare à celle de Jalen Johnson. Déjà, le poste peut ressembler.
Ouais.
Le rôle aussi.
Ouais.
Espèce de forward, calabale dans les mains, qui prend des rebonds, qui score et tout machin.
Absolument.
Donc ouais non mais Denis Avdija il est là moi je l'ai pas mis sur le podium parce que j'ai mis Reeves, mais je valide complètement.
Tu avais parlé de Josh Giddey, petite mention pour deux garçons moi en
vas-y,
rapide
t'as qui, toi,
Ryan Rollins qui est une des, quand même on avait parlé dans les previews, le Gérard d'Or qui est une des belles surprises à Milwaukee qu'on avait pu voir la saison précédente. Et puis quand même, parce que je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui sont sur le Jazz, mais bordel
Keyonte George.
George,
tiens,
il était 4-5ème dans le classement. Alors après, il y a d'autres garçons.
Tout a augmenté, hein, Keyonte George. Hein, le scoring, le rebond, les passes, les pourcentages. C'était dégueulasse l'année dernière aussi, il faut dire.
Là, Keyonte George, tous les soirs, tu peux te prendre un gros bouillon, hein, c'était en face.
Et puis, il est dur à défendre.
Ouais.
Et puis, c'est bien ce qu'on disait, c'est bien de ne pas le foutre trop la main, c'est un vrai combo. Qui doit avoir de la liberté, mais il est très bien à côté d'un Isaiah Collier ou d'un gars comme ça. Il est le vrai métronome de l'attaque du Jazz depuis ce début de saison. Évidemment, il y a Markkanen qui score, machin et tout.
Mais
Keyonte George va chercher tous les lancers. C'est super début de saison.
On a fait, Alex, un apéro récemment du côté de Boston au poste de pivot.
Nimias
Keita. Énorme aussi en termes de progression.
Super, tout a doublé. Hein.
Wow.
Le mec, on l'a foutu titulaire. Il a fait, il y a pas de problème. Je vais tenir le poste du mieux que je peux. Alors.
Boucher.
Après, parfois, je le trouve un peu limité sur certaines actions et tout. Pour moi, ça reste un role player. C'est pour ça qu'il rentre pas là-dedans.
Non, mais il est super.
Parce que là-dedans, on a des mecs où on se dit, tu vois, les Reeves, les Avdija, les Duren, les Jalen Johnson, ça a des bonnes tronches d'options 2-3 d'une équipe qui va loin en playoff.
Tout à fait.
Nimias Keita, en tout cas pas en attaque, tu vois. Peut-être le pivot défensif, quoi.
Qui vous avez-vous en progression de l'année au moment où on parle? Et surtout, est-ce que dans ces garçons-là, vous en voyez qu'ils vont être All-Star? Jalen Duren, Jalen Johnson, Austin Reeves, Denis Avdija. Attention, la concurrence va être très folle. En tout cas, on parle de 4 Américains.
Voilà, ils peuvent...
Là.
Non, Denis Avdija.
Ah, pardon,
il est
Denis
pas
Avdija, excuse-moi.
Non.
On a Johnson, Jalen Duren et notamment ton ami Austin.
Ouais, là, ils peuvent tous prétendre, potentiellement, y croire à être All-Star. Ils ne seront pas tous. Il n'y a pas assez de place. C'est pas possible.
Ça va être compliqué. On va effacer et on va
efface,
passer à une autre petite
on passe
section.
À quoi ?
Ah, bah, tu sais, parfois, il y a des garçons, quand ils regardent le match démarrer, eh ben, ils sont assis sur le banc. Et on va parler de nos amis, les 6e hommes de l'année. Puisque dans cette belle catégorie, on va rendre hommage à ces garçons qui restent sur le banc, mais contribue au succès de leur équipe. Alex, parlons des critères un petit peu d'un très très bon sixième homme.
Alors, ne pas être trop titulaire.
C'est vrai.
Moi, j'ai du mal à avoir un mec qui a joué plus d'un quart de ses matchs trop en titulaire. Ça m'embête toujours de le mettre dans les sixième hommes parce que voilà. Après, oui, le sixième homme, c'est souvent le gars auquel le coach fait appel en premier pour boucher les trous quand il y a des blessures ou quoi. Donc, c'est normal que potentiellement le gars ait quelques matchs en tant que titulaire, mais pas trop. Deuxièmement, je regarde un peu les minutes, comment le gars est utilisé. En gros, un mec du banc qui a 22, 23, 24, 25 minutes, c'est bien, hein, ça veut dire que c'est un joueur important du banc. Mais on a des mecs de banc qui ont 28, 30 minutes, voire plus par match. Et tout de suite, ça veut dire quelque chose déjà dans la tête du coach. Ça veut dire que dans la tête du coach, c'est... il pourrait être titulaire, mais ça m'arrange quand même bien de l'avoir sur le banc.
Ça m'arrange d'avoir sentiment, tout à fait.
C'est ça un sixième homme aussi dans ma tête.
Bien sûr.
Faut que ça score. Un sixième homme, faut que ça score un minimum.
C'est compliqué, ouais. Pour les gars qui... Combien de fois on a vu Marcus Smart qui a été énorme à Boston, mais qui loupait ce trophée.
Les intérieurs, il y en a. Mais il y en a...
Moi, il va avoir une petite mention pour un intérieur qui me régale, hein, mais malheureusement, il sera pas premier parce que c'est... Tu as raison de le dire, c'est quand même un trophée qui est souvent réservé aux scoreurs.
Ball handler scoreur, parce qu'évidemment, c'est tout de suite plus facile. On te donne des minutes en sortie de banc. Et si t'as un bon niveau et que t'es un peu en forme, tu vas driver l'équipe, ça va jouer autour de toi. Souvent, le gros meneur ou le gros arrière ou les deux de ton équipe, bah, ils sont en train de se poser. Donc, c'est toi qui as la responsabilité du jeu. Et donc, si t'es capable de faire ça, bah ouais, ça va beaucoup t'aider. Donc, après, je regarde comment ça score, je regarde comment ça crée pour les copains. J'ai dit, je regarde les minutes, ouais, un peu de pourcentage, enfin tout ça, quoi.
Un petit peu de tout ça. Parfois, il y a des matchs, vous le savez, hein, 82 matchs par saison, c'est un peu compliqué. Alors, on a souvent les mêmes stars et les mêmes stars qui font le boulot. Mais certains soirs, on arrive et on dit, allez au-delà de la feuille, ce match, il a été remporté grâce à tel remplaçant qui a changé le cours du match. Les sixième hommes, ce sont aussi des garçons qui rentrent sur les parquets et changent le cours de la rencontre. Certains soirs, parfois, les titulaires ont vraiment les pieds qui traînent et il faut faire entrer la pile électrique. Et c'est tellement important parce qu'on avait fait toute une vidéo avec Alex sur la recette secrète d'une équipe qui est championne. Tu n'es pas champion sans
c'est
un
difficile.
Bon sixième homme.
C'est
de
très
la...
difficile.
Quand même, c'est
non,
souvent
non,
des gars
d'accord.
qui sont là.
C'est
quoi, c'est qui? C'est Pritchard l'année dernière?
Bah, l'année dernière, non, mais il y a deux ans, oui.
C'est qui, c'est
ah, le sixième homme de l'année, c'est Pritchard.
Ouais.
Mais il y a deux ans, c'est Pritchard, le sixième homme de l'équipe championne.
Tout à fait. Et Pritchard, ensuite, l'a été, c'est ça, sixième
ouais,
homme de l'année.
Ouais, 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 ouais,
et
ouais.
On va voir qui va prendre sa place. Dernier critère, évidemment, après, ça, c'est vous qui voyez. Mais ce sont ces garçons qui, en fait, sont tellement aussi appréciés par le public que ça devient limite des chouchous aussi un petit peu sur le banc. Parfois, il y a des garçons qui deviennent des légendes. À Minnesota, pendant des années, il suffisait de tweeter Nasrid avec un point pour faire lever les foules. Et donc, on a
Nasrid,
plein
on va
de
voir
passants.
Ce qu'on en fait là, mais il fait encore un sacré début de saison de sixième homme. Hein.
Ça, c'est sûr et certain.
C'est vrai. Hein.
On écrit ça sur la tablette.
Allez, 1, 2, 3.
Allez, on va essayer de faire un joli 1, 2, 3. Qui est, à tiers de parcours, votre sixième homme de l'année? On va écrire ça tout de suite.
Pas facile, moi j'avais bien 5
ouais.
sinon, voire plus.
Moi j'en avais quasiment une dizaine.
Ouais.
C'est dur. Alex en 1, il nous a mis Quentin Grimes. Ensuite,
j'ai mis Raquez en 2.
Raquez en 2 et Nasrid en 3. J'ai mis Raquez en 1, Isaiah Stewart à qui je voulais donner de la love en 2 et AJ Mitchell. Chez qui ça se calme évidemment côté Thunder, mais je voulais lui envoyer un petit peu de love.
Jamie Chalitriche, il a serré la main de Nico Vrigno juste avant la saison. Lui.
Y a-t-il un rapport depuis que Nico Vrigno s'est lavé les mains et que Jan Williams est revenu? Juste rapide, AJ Mitchell pendant un mois, il était en leader de cette course, il a été extraordinaire en sixième homme pour le Thunder. Là, on va revenir gentiment vers des registres à 7, 8, 9, 10 points de moyenne avec le retour des cadres dont Jan Williams.
Oui, AJ Mitchell. Super début de saison.
Formidable.
Ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il a bénéficié dans sa ligne de stade de grosses titularisations parce qu'il y avait de la blessure à droite, à gauche et tout. Donc, moi, ça me l'a sorti un peu de mon top 3, mais il était là dans ma réflexion.
Je voulais faire un petit coup de cœur à ma commu belge.
Tu vois, 26 matchs, 7 fois titulaire, ça fait un peu plus d'un quart. Tu vois, ma règle, elle tient.
Elle est respectée. Non, mais je sais que nos fans belges, à chaque fois, viennent nous toquer à la porte. Et c'est vrai qu'AJ Mitchell, moi, j'ai été vraiment halluciné. Il était à la bataille avec plein de garçons dont on va parler après. Tu nous as mis Nasrid.
Nasrid
qui avait démarré
3.
La saison difficilement, mais quand ça préchauffe bien.
En fait, il a démarré difficilement, et puis après, ça s'est mis à préchauffer. Et puis, en fait, Nasrid, c'est vraiment un des meilleurs sixième hommes de la NBA. Quand il l'a eu il y a deux ans, lui, c'est ça?
Je crois Nasrid, oui, devant Malik Monk.
Ouais, c'est ça. Nasrid, quand il est un peu en forme et qu'il rentre, ça change tout le match des Wolves à chaque fois. Mm-hmm. Ça peut changer leur match, ça peut changer leur fin de match. C'est une option en fonction des oppositions. On voit bien que Chris Finch, le coach des Wolves, est là entre qu'est-ce que je fais? Je suis sur du Randle Gobert ou du Randle Reed pour finir le match. Il n'y a pas du Reed Gobert, hein, c'est rare.
Non.
Il doit y avoir peut-être par mini-phase, mais pour finir les matchs, certainement pas. Pour plusieurs raisons à ça. La première, c'est que Nasrid a un impact à distance, donc c'est vraiment un stretch 5 fort, quoi.
Ouais.
Enfin, c'est un 5, hein.
Oh, ouais,
c'est un
5
qui bricole en
4,
voilà. Mais c'est un 5 par contre qui met ses tirs. Il met 39% de ses 3 points, il met 14 points par match, il prend 6 rebonds, il y a un petit peu de passe d'ess, il y a un petit peu d'interception, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. Et dans tout ça, dans une équipe quand même qui performe. Les Wolves sont top 6 à l'ouest, ont des grosses intentions Et oui,
14 points par match, 14
ouais,
points,
ouais, tu
rebonds,
vois, c'est ça, 14 points, 6 rebonds, 2 passes et demi, 39% à 3 points, mais même au tir global, il est très propre, hein, il est à 46-47%, c'est vraiment bien, c'est quelqu'un sur lequel tu peux compter, c'est un vrai danger, les scouting reports sont obligés de s'adapter à ça, c'est vraiment... il a progressé en plus en je fais fin de tir, je pose la balle et je vais chercher des lancers ou des paniers près du cercle et tout. Moi, j'aime beaucoup Nasrid. Je pense que c'est un joueur vraiment très important dans l'organisation des Wolves. Et donc, voilà, j'avais envie de mettre aussi un intérieur. Je vois que toi aussi, tu as mis un intérieur. Après, on a deux joueurs extérieurs. Donc voilà, toi t'as mis Adjei en 3 que moi j'ai pas du tout dans mon top 5,
ouais.
Dans mon top 3 pardon.
Dans le top 3.
T'as mis Isaiah en 2 que j'ai pas non plus.
On va en parler.
T'as pris Isaiah parce que moi j'étais embêté avec les Pistons.
Oh là
oui
là.
Moi aussi je le kiffe.
En
mais...
termes d'impact aujourd'hui, des deux côtés du terrain, dans les... parmi tous les remplaçants de NBA, je pense que c'est le meilleur.
Bah surtout en défense. Oh là moi là en là attaque là. Je suis un peu plus mitigé, mais en défense je suis d'accord. C'est attends, en défense c'est le meilleur sixième homme.
En défense c'est le meilleur sixième homme de la NBA. Point.
Il y a Anthony Black qui vient chicaner.
Tout à fait. Et puis parfois à Miami, on va en parler avec Rakez, mais quand parfois certains soirs, c'est pas Dion Mitchell qui en est en termes d'impact aussi défensif d'entrée.
Rakez, bah c'est pour ça que tu l'as mis un. Moi, je l'ai mis deux. Ouais, c'est notre gars en commun. Donc on va en parler.
Mais oui, je voulais juste donner un peu de love à ma Pistons Nation qui se dit yes, on est un petit peu partout. Justement à Monsieur Isaiah Stewart qui, en effet, numériquement, n'envoie que. Allez, on va pas se mentir. Hein. Il y a voilà, il y a 10 points, 6 rebonds et 2 contres de moyenne en
mal.
Sortie de banc avec 22 minutes de jeu. Mais ce que je trouve exceptionnel avec ce joueur, c'est regardez-le sur le terrain. Et en fait, ouais, aujourd'hui, la doublette du Rennes Isaiah Stewart, c'est une des meilleures au poste de pivot de toute la NBA. C'est-à-dire que tu as un joueur où défensivement, tu sais que tu peux jouer avec lui et finir les matchs avec lui. Hein. Attention,
quand on
a fait la preview de Pistons Knicks l'année dernière en playoff, moi j'étais très curieux et intéressé de voir ce que Karl Anthony Towns versus Isaiah Stewart allait pouvoir donner. Et ça avait bien démarré pour Isaiah Stewart avant qu'il se blesse. J'adore ce joueur. Malheureusement, on l'a dit dans les critères, pas assez de scoring et donc du coup, ça décale. Tu vas nous parler après de Quentin Grimes. Juste, on est tous les deux d'accord au moins sur un nom, Jaime Rakez.
Ouais.
Quelle saison, quel retour de Raymer.
Sixième homme pur. Il a jamais été titulaire depuis le début de saison. Il y a plus de 15 points. Il y a 6 rebonds. Il y a 5 passes d'aise. Il y a une interception. Au tir, c'est très propre. On l'avait un peu zappé l'année dernière parce que dans sa saison, tu sais, il avait fait une super saison rookie.
Ouais, mais...
Et il fait une saison sophomore un peu plus complicado, comme on dit chez les, oui. Chez les Rakez. D'ailleurs, ça se voit complètement dans les stats que tu nous mets à l'écran. Hein, c'est moche. On aurait même pu le citer dans le MIP par rapport à sa saison 2.
Hein. Mais vu ce qu'il a fait en saison 1, c'est compliqué.
Mais voilà, exactement. Mais par contre, là, ce que Spoelstra lui demande de faire en sortie de banc et ce qu'il propose, c'est impeccable. En plus, Jaime Rakez, c'est un 2-3, 3-2, comme vous voulez. Enfin, c'est un swingman là, qui peut bricoler en 4. J'aime beaucoup là. Les systèmes mis en place par Miami où tu vois bien que c'est un système où le porteur de balle principal doit être Jaime Rakez, où il peut aussi devenir le connecteur principal. C'est un excellent connecteur. Il porte un peu la balle, mais c'est un excellent connecteur. Son jeu se marie très bien avec... En fait, j'ai l'impression que Jaime Rakez, tu le prends de Miami, tu le mets dans une autre équipe qui a besoin d'un sixième homme comme ça, connecteur, capable de faire... Hop, ça marcherait. J'ai vraiment l'impression que c'est un sixième homme naturel. Bien joué, Eric Spoelstra, encore. Mais c'est bien joué.
Je suis d'accord.
J'aime beaucoup. Ça lui va bien, ça se voit, il sait tout faire.
Ouais, je suis d'accord là avec ce que tu dis sur le côté, tu peux le mettre dans n'importe quelle équipe. Encore que, et on en parlera peut-être dans le dernier trophée de cette vidéo... Quelle libération pour lui aussi, l'évolution offensive du 8 en un été. C'est-à-dire que là, on avait vu cette chute l'année dernière où vraiment ça n'allait pas pour Jaime Rakez. Et ce nouveau jeu prôné par le Heat, fast offense, ça lui va tellement bien. Il est relâché là, Jaime Rakez. Et donc du coup, il y a beaucoup plus de pénétration parce qu'il a suffisamment de handle et de jeu physique. Et c'est pas un rookie de 18 ans, hein. Ça fait 3 saisons NBA, il avait fait un long cursus. Il doit avoir bientôt 26-27 piges dans Jaime Rakez. Il a 24 ans. Il a 24 ans, il va avoir ses 25, donc c'est un joueur qui a un peu d'expérience. Et moi, j'avoue que là, c'est peut-être un des mecs qui bénéficie le plus, avec Norman Powell notamment, de ce jeu go fast up tempo à Miami, quoi.
Ouais, non, c'est clair, ça lui va bien. Et puis, je trouve qu'il... le jeu lui va bien, et lui, il le rend bien à son entraîneur, dans le sens où, défensivement, il est quand même assez pratique. Il a beaucoup d'intensité en attaque, comme le montrent ses statistiques. Il sait un peu tout faire. Ah ouais. Donc, du coup, bah, c'est très pratique. En fait, Jaime Raquez, on a vu des fois où, genre, c'est Kelelwer qui sort. Adebayo passe pivot et Raquez glisse un peu sur les postes 3-4 parce qu'il vient de rentrer. Mais depuis ces postes-là, il peut porter la balle ou, je te dis, se déplacer sans ballon, jouer les connecteurs et tout. C'est vraiment un excellent début de saison de la part de Jaime Raquez. Et ça mérite le podium. Donc toi, tu l'as mis 1, hein, c'est ça ?
Moi, je l'ai mis première à Raquez. Toi, tu nous as mis Monsieur Quentin Grimes du côté de Philly.
Ouais, moi, j'ai mis Quentin Grimes pour l'instant en 1. On va voir, je l'ai mis 1, j'ai beaucoup vu de matchs de Philly. Philly, c'est une des équipes qui m'intrigue et qui me fait bien kiffer en fait cette saison, sur le début de saison. Mmh. Et je dois reconnaître que...
Ah bah, les entrées de Quentin, ça se sent.
Ils ont fait un très bon coup en récupérant Quentin Grimes. Ouais. Bien joué. Et ces derniers temps, il a été pas mal titulaire.
Merci Dallas.
Ouais, merci Dallas. Il a été pas mal titulaire, donc là aujourd'hui je le mets 1, mais il faudra voir s'il va pas être un peu trop titulaire entre guillemets pour finir 6ème homme de l'année.
Pour moi, on est bien là.
Pour l'instant, il y a 24 matchs 6 fois titulaire, donc on est pile au quart, ouais. 25%. Il y a plus de 16 points par match.
Ouais.
Il y a plus de 4 rebonds, il y a plus de 4 passes d'ess. C'est un joueur intelligent. On lui file plus de 33 minutes par match en sortie de banc à Philly. Hein. Attention, hein. Ouais. C'est lourd. Hein. Il finit les matchs. Il défend pas si mal. Mm-hmm. Hein, attention. Il rentre ses tirs. Il est très complémentaire parce que pour le coup, on est vraiment sur un joueur assez off-ball. Donc très complémentaire de type comme Maxi évidemment, mais même Jared McCain, ou quand il y a Embiid sur le terrain, ou éventuellement quand Monsieur Paul George, tu vois, joue ou quoi.
Ah, ça a bien joué parfois la Paul George, ça.
Ah mais grave, bien sûr, non, mais bien sûr. Je,
très
mais
bon
je,
fermage de gueule de Paul George là.
Je me moque un peu de Paul George parce que je trouve que voilà, oui, fermage de gueule. Enfin bon, s'il pouvait faire ça sur 40 matchs de suite, là ça serait cool par contre. Voilà.
Là, tu me demandes le haut de la Tour
Eiffel. C'est un peu dans ce sens-là.
Mais il y a eu des très bons matchs, je voulais juste le souligner.
Mais ce que je veux dire, c'est que dans le très bon début de saison, parce qu'il est très bon le début de saison de Philadelphie, hein, il est tout à fait bon, hein, par rapport à... Je te dis, Paul George n'est pas arrivé tout de suite, ça va mieux. Embiid, bon, il a fait un gros match récemment, mais sinon, on était tous les deux d'accord pour dire « Ouh là là !» et tout machin. Mais il y a Maxi, évidemment, qui se voit énormément. Mais en fait, dans l'ombre de ça, parmi les roleplayers... qui sont envoyés sur le terrain par
Nick Nurse,
je ne sais pas pourquoi j'hésitais, par Nick Nurse, y a Quentin Grimes. Et il fait super bien le boulot. Et en fait, en sixième homme, ce genre de profil...
Non, c'est super pour eux.
Tu vois, à New York, à la place, est-ce qu'il était à New York au départ avant d'aller à Dallas, hein, Quentin Grimes.
Ouais, je te confirme.
Ils ont Jordan Clarkson. Je déteste pas forcément Jordan Clarkson. Je me demande pourquoi... Enfin, tu vois, je pense que quand tu regardes ça,
l'histoire.
Tu dis bon...
Oui, bien sûr. Bon, après, l'histoire, on peut la refaire et ça va libérer de la place.
Mais
pour
en tout cas, aujourd'hui, il lead la course au sixième homme. Il score un petit peu plus que tous les concurrents qu'on a dit. Il a des bons pourcentages. Il a beaucoup de minutes.
Oui.
C'est le signe aussi d'un sixième homme, enfin d'un joueur très important dans le groupe. Et il bouge beaucoup de trous. Il est régulier. Tu vois, je ne pensais pas forcément qu'il serait aussi régulier que ça. Et souvent, il met ses 12, 14. De toute façon, il est à 16 de moyenne. Donc, il faut bien...
Moi, j'avoue que je suis assez impressionné notamment par la production de Quentin Grimes par rapport au contexte dans lequel la saison a démarré. Est-ce que les gens se souviennent là, quand on était à Abu Dhabi, là, il y avait les matchs des Sixers et on ne savait toujours pas s'il allait prolonger avec les Sixers. C'est-à-dire que le gars aussi mise sur lui-même. Et, et ça, pour le moment, c'est en train de bien se transformer pour Philly. Après... à confirmer les Sixers, parce que pour le moment, il faut rattraper l'élite de l'Est. Ils sont combien de là? Ils sont 4e, 5e, 6e, 7e,
6.
Ils sont 6e.
Aujourd'hui, 6e. Mais ils sont dans le mouchoir.
Je
ne
sais plus combien on les avait mis, Alex, dans les pronostics. Mais...
on avait dû les mettre là, à peu près. Bon, moi, j'ai dû les mettre à peu près là, pas toi?
Si, ça va être dans ce range. Par contre, qu'est-ce qu'il y avait comme autre prétendant? On a parlé là à l'instant de Anthony Black, qui a aussi pas mal de grosses responsabilités. Ouais. Keldon Johnson aux Spurs, d'où Jésus.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il fait?
Bah, Reed Shepard. Ni toi ni moi l'avons mis. Je pense que là, à Houston, ils sont en train de faire des poupées vaudou à notre effigie.
Non, Reed Shepard, évidemment, il a sa mention. C'est très, très bien. Oh, moi, je suis étonné que tu n'aies pas parlé de Cohen Gillespie.
Bah parce qu'il est devenu titulaire là.
Bah ouais, mais alors attends.
Ah ouais, mais non.
Ah, ça... les impacts en sortie de banc.
Ouais,
bah,
bien sûr, mais voilà, tu connais mon objectivité légendaire.
Absolument.
Tiens, on va les regarder. Mais il me semble que limite, je me demande si tiens, bouge pas, j'y vais.
C'est comme pour Jérémy Grant, qui est aussi un très très gros prétendant à ce trophée. Et Jérémy, je crois, a commencé à taper les minutes de titulaire. Tu veux expliquer ?
Colin, où es-tu mon grand Colin ? Ouais, tu vois, il a 7 titularisations.
Oh, ça va.
Bah, en fait,
ça va.
C'est exactement la même que Jay Mitchell. Donc, si je commence à un peu mettre à Jay Mitchell un peu, et ses stats en bénéficient grandement. Et,
c'est comme Quentin Grimes. Hein.
Et j'adore Colin Gillespie. C'est pas le sujet, hein, genre. Voilà.
C'est quasiment le même ratio que Quentin Grimes. Hein.
C'est Quentin... un petit peu au-dessus.
Bon, c'est
un peu, mais on s'en fout, c'est pareil.
Match, ouais,
oui, 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 c'est le même range. Mais je pense que Quentin. En fait, je pense que Gillespie va être un titulaire au Suns désarmé parce qu'en fait, Booker, c'est bien d'avoir un meneur à côté. Mm-hmm. Et il arrive à travailler Grayson Allen, Royce O'Neal, Dylan Brooks évidemment. Donc il bricole ses ailes et tout. Je serais pas surpris que Gillespie soit vraiment titulaire de manière de plus en plus régulière.
Oui.
Vu ce qu'il apporte et sa complémentarité évidente avec Booker. Alors que je pense que Grimes, il y a moyen que Edgecombe continue d'être titu. On verra. Pour l'instant, c'est McCain qui sort du banc, tu vois, avec Maxi, mais en fonction de Paul George. En gros, je vois plus Grimes avoir une vraie gueule de sixième homme en fin d'année et Gillespie, ça se trouve, il aura joué 38 matchs titulaires. Vous voyez ce que je veux dire ?
Peut-être, ouais.
En tout cas,
c'était une mention obligatoire.
C'était un peu
que...
ça, mon raisonnement. Et Mitchell, le raisonnement, c'est que je pense que ses stats vont un petit peu baisser
parce que
la profondeur de l'effectif du Thunder fait qu'il va peut-être avoir un peu moins de temps.
Bien sûr. Moi, je voulais juste donner un peu de love à Gillespie qui fait vraiment un super début de saison.
Bien sûr.
Qui pourrait même être dans les progressions, hein, parce que le mec, quand même, bon, c'était sympa l'année dernière avec KD. Hein,
il part de nulle part.
Il part de nulle part. Jérémy Grant qui commence, je ne sais pas si tu as les stats, à avoir un peu trop de matchs en tant que titulaire. Regarde, mais alors quelle production, parce que là, je crois qu'il regarde tout le monde et il dit, bah les gars, je suis le meilleur. Hein. En termes de production numérique, Jérémy Grant, je crois que c'est le meilleur parmi les sixième hommes. Mais il commence à avoir pas mal de matchs.
Il est à 20 points par match, mais il a joué plus de la moitié de ses matchs en tant que titulaire.
Ah, c'est dommage.
Donc ça, c'est pas un sixième homme pour moi.
Ça, c'est compliqué. Keldon, j'ai dit. Nasri, t'en as parlé. Anthony Black.
Ouais.
À voir, parce qu'il est devenu extraordinaire là cette saison avec les Knicks en titulaire. Mais Josh Hart, bordel, quel taf il a encore fait là cette saison. Mais
ouais,
il y a eu beaucoup de titulaires. T'avais d'autres noms comme ça en sixième homme ou non, on est bon ?
Pas, je suis en train de relire ma liste. Graham.
Vous pouvez ajouter qui voulait. Hein.
Non, bah c'est déjà pas mal. On a bien travaillé là. Hein.
Ah, les gens de Boston ou d'autres franchises qui veulent venir nous chercher, vous n'hésitez pas.
Raquez en 1 pour Bastien. Grimes en 1 pour moi.
Oui. Et on est d'accord sur Jalen Duren pour le Most Improved.
Ouais.
On va terminer avec les coachs.
Allez.
Coach de l'année. Bon, bah alors là, c'est simple. Hein. Vous la connaissez, c'est la tablette. Hein. Nous sommes chez les entraîneurs. On va devoir revenir, évidemment, sur cette incroyable course l'année dernière où on avait Kenny Atkinson, Ime Udoka, Jimmy Bickerstaff. C'était complètement fou. Là, je t'avoue que c'est un peu plus tricky. Est-ce que, Alex, on peut revenir sur les critères, notamment de coach de l'année? Parce que ça change pas mal, cette affaire, hein, d'année en année. Hein. Parfois, c'est la progression de victoire, le changement de style. Comment tu joues alors que tu as plein de blessés?
Comment tu joues alors que tu as plein de blessés? Comment tu utilises au mieux ton personnel? Tes résultats, évidemment. Moi, j'ai toujours du mal à mettre en haut de la course du coach de l'année des équipes qui sont genre tout juste play-in ou quoi. Toujours, je dis pas que c'est pas possible. Hein. Je dis juste que j'ai un peu plus de mal.
J'entends.
Même si ça veut pas dire que je sous-estime leur travail, mais ça veut dire que je pense qu'il y en a d'autres qui ont fait un travail encore meilleur.
Genre Jordan Ott?
Ouais, Jordan Ott, travail
coach
incroyable.
Coach des Suns, attends, je suis obligé de le mettre quand même.
Travail incroyable de Jordan Ott.
J'adore.
Jeune coach, hein, 40 berges, qui est clairement à l'origine de ce qui se passe chez les Suns cette saison, même s'il y a l'impact d'un Dylan Brooks qui est incroyable, il y a Mark Williams qui se blesse pas, il y a Booker qui accepte un peu tous les rôles et qui fait le tabac. Il y a plein de choses qui se passent. Mais quand il y a plein de petites choses comme ça qui se passent dans une équipe, souvent... c'est que le coach, il a quand même fait passer des messages globaux qui fonctionnent.
Absolument.
Et des messages individuels.
Absolument. Et
donc oui, il est en mention complètement Jordan Ott, mais il n'est pas dans mon podium.
Je comprends. Après, c'est vrai que notre ami Jordan Ott, non seulement ça se voit à Phoenix, mais tu sais où est-ce que ça se ressent aussi ? À Cleveland.
Ouais.
Dont il est parti. Et je peux te dire que les Cavs, en ce moment, on en parle pas mal. Il y a des dumb face de Kenny Atkinson où parfois, il y a des assistants comme ça qui se barrent.
Bah,
on avait
mal.
Vu par le passé aux côtés
ça
de Steve
Kerr. Ça enlève tout un pan de ton aspect tactico-technique. Tout à fait. Tout à fait.
D'autres critères un peu sur le coach de l'année ou non? T'aimes bien les fins de match, les situations un petit peu de...
Je regarde pas mal ce qui est mis en place d'un point de vue tactique et ce que ça donne vraiment. Genre, Je le mets pas dans mon podium aujourd'hui. Oh, je pense que tu l'as pas non plus. Moi, je dois reconnaître que j'aime beaucoup ce que les Knicks proposent en attaque. J'aime beaucoup mieux ces Knicks en attaque que les Knicks de l'année dernière. Et je pense que Mike Brown n'y est pas pour rien. Tous les systèmes, toutes les options qu'il y a, un peu moins que sur Brunson. T'as du Brunson sans ballon plus et tout. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Mais en tout cas, à regarder, je trouve ça hyper intéressant ce que propose Mike Brown. Après, il y a le problème défensif. Et je dis pas que...
J'ai hâte de faire un apéronix. C'est tout ce que je dirais.
Ouais, mais je dis pas que Karl-Anthony Towns, c'est pas pour rien. Mais Mike Brown n'apporte rien de tellement de plus ou quoi. Mais par contre, offensivement, j'aime beaucoup le travail collectif. Tu sens que ça... C'est un peu dur et tout, mais il met en valeur beaucoup plus de choses. Je pense que si les Knicks continuent sur cette dynamique, ils vont avoir une attaque beaucoup moins prévisible que celle de l'année dernière et qui, du coup, peut leur permettre d'aller plus loin.
L'objectif, c'est mai.
Et là, c'est un travail global qui est en cours, mais qui ne va pas suffire là, aujourd'hui, en tout cas, pour mettre Mike Brown dans la course au coach de l'année. Mais je voulais le citer.
Oui.
Parce que je pense qu'il fait du bon boulot.
Bien sûr, il y aura pas mal de gars dont on pourra parler. Est-ce qu'on ne se mettrait pas notre top 3 ?
Allez.
Comme ça, ensuite, on va débattre un peu des. Ceux qui sont sur le podium et ceux qui ne le sont pas pour en faire des belles mentions. Ah, moi, il n'y a pas beaucoup de lettres décrites, hein, je te préviens. Ce sont des hommes dont on peut parler en quelques lettres, mine de rien. Allez, Alex, il a mis JB Bickerstaff en 1, je l'ai en 3. Joe Mazzulla, Alex a mis en 2, j'en ai parlé dans un autre apéro. Et Monsieur Mitch Johnson en 3. Et bien, tu vois, moi, j'ai Spo en 1, Monsieur Marc Degnaud en 2.
C'est mon sleeper.
Absolument.
C'est mon sleeper.
Pour acquis, j'en ai rien à foutre, je vais en parler
sleeper.
Pendant des heures, ça suffit cette affaire.
J'avoue.
Et. Bah alors, parle-nous de JB Bickerstaff, puisque.
T'as qui en 3, toi ?
Moi, j'ai JB Bickerstaff en 3, et toi, tu as JB Bickerstaff en 1.
Et j'ai pas Spolstra ni Degnaud.
Non mais attends, c'est une belle. Attends, par contre, on va dire les choses. La course au coach de l'année là, c'est hyper ouvert.
Ce qui fait plaisir en plus, c'est que il y a beaucoup de noms de mecs pas si vieux que ça sur nos tablettes. Il y a pendant longtemps, je me plaignais un peu du jeu de chaise musicale. On voyait tout le temps un peu trop les mêmes noms réapparaître.
Ouais, c'est beau, là.
Sur les bancs NBA. Là, faut reconnaître qu'on a vraiment pas mal de nouveaux coachs qui s'installent. Même on pourrait citer, tu vois, le travail. On verra ce que ça donnera plus tard de David Adelman avec les Nuggets ou quoi. Il y a vraiment plein de choses intéressantes et ça fait plaisir. Ouais, j'ai mis Bickerstaff en 1 parce que alors là, pour le coup, je l'aime pas forcément à la base et je dois reconnaître que quand je vois les Pistons jouer déjà l'année dernière, travail exceptionnel de JB qui a fait voilà.
C'est record ce qu'il fait. Hein. On passe de 15 victoires au playoff.
Mais là, cette année. Le truc, c'est que, en gros, la plupart des gens, on s'attendait à ce que les Pistons deviennent une équipe un peu sérieuse de l'Est, qu'il faille compter avec eux et tout. Et il y a encore un bon step là qui est passé, en tout cas sur ce premier tiers de saison, par les Pistons, quoi. C'est, je veux dire, les Pistons sont la deuxième meilleure défense de la Ligue. Ok. Ils ont une attaque un peu mid parce que voilà il manque encore peut-être des choses et tout. On lui a enlevé des joueurs importants de l'année dernière, on lui a enlevé Tim Hardaway Jr. voilà Malik Beasley et tout. Et ben il s'est adapté. En plus il fait progresser les jeunes. Kate Cunningham a progressé, Jalen Duren a progressé, Isaiah Stewart a progressé, Osar Thompson progresse,
et puis les nouveaux, Ron Holland,
Dennis Jenkins, enfin putain Bickerstaff. Alors autant en playoff on verra, parce qu'on verra comment les Pistons vont se comporter. Autant il m'a déjà énervé par le passé à de nombreuses reprises. C'est pas les fans des Cavs, qui vont me contredire là-dessus et tout. Mais par contre, là, ce qu'il propose sur ce premier tiers de saison régulière, ah ouais, moi ça me le fout en 1. Ouais, pour l'instant ça me le fout en 1. Bon, toi tu l'as sur ton podium. Eh, c'est notre seul point commun du podium, c'est JB Bickerstaff.
Tu sais que celle-là, très belle.
Tu sais que celle-là, il y a deux saisons.
Ouais.
Fallait la prédire.
C'était très très chaud. Monsieur JB Bickerstaff, je pense va peut-être, je suis pas sûr, mais va peut-être pâtir du fait que l'année dernière a lieu l'explosion. Alors là, c'est encore plus fou parce qu'ils sont premiers de la conférence Est de manière logique. Hein. Mais c'est vrai que l'année dernière, il était sur le podium. Je sais pas si d'ailleurs la NBA et les votants vont le mettre podium. Mais moi, je trouve que c'est remarquable ce qu'il a fait, notamment. Tous les matchs où il y a eu des absents. Sur les trois premières semaines de la saison,
ils ont eu des blessures.
Les Pistons, ils ont joué avec des effectifs certains soirs. Et je me disais,
des joueurs.
Eh ben allez, j'avante Green Knight. Et on y va. Et Paul Reed et Dennis Jenkins. Et il a gagné des matchs.
Et quoi qu'il arrive, ça a joué dur.
Et ça a joué
dur. Et ça a défendu.
Ouais.
Quoi qu'il arrive.
Non, mais ça.
Ça, Le groupe, lui, il est 10 deep. On pensait pas qu'il était 10 deep. Il a dit, regarde-moi bien. Et regarde-moi comment je suis 12 deep.
Ouais, complètement. Non, mais ça, je suis impressionné. Ça pouvait pas sortir du podium. Après, il y a d'autres noms. Hein. Tu vois, là, par exemple, toi, tu as eu Mazzulla. J'en ai parlé en long et en large dans l'apéro Celtics. J'adore ce que fait Mazzulla.
Tu l'as pas mis, vu ce que tu as dit dans l'apéro Celtics.
Je me suis dit, j'en ai parlé pendant des heures sur les Celtics, l'apéro.
Oui,
donc,
mais voilà.
Il est quatrième.
Pour moi, il est dans la course au trophée du coach de l'année. Clairement, Mazzulla. Dans le sens où. Son effectif a été grandement modifié à l'intersaison par des transferts, des trades, enfin hyper Jrue Holiday, hyper Porzingis et tout, plus par une blessure en playoff, donc celle de Jason Tatum. On parle de trois titulaires d'une année sur l'autre, et que pas mal de gens, dont moi, pensaient que certainement ils avaient intérêt à tanker. On a fait tout un apéro celtique, je vais pas vous refaire tout le délire et tout, mais en gros, nous avons ici à l'écran un homme, pas tout seul, hein, il a Jaylen Brown évidemment qui a suivi Jaylen Brown, qu'on aurait pu citer dans les MIP, limite, mais c'est, voilà, doucement. Oh, au scoring, en tout cas, c'est le clair. Mais voilà. Mais Joe Mazzulla met en place des choses qui, offensivement, défensivement, on peut discuter, mais il a perdu tellement de joueurs importants que c'est pas simple, mais offensivement, il met en place des choses qui relèvent du domaine de l'excellent coaching. Il y a énormément de bons choix. Il y a beaucoup de sorties de temps mort qui sont impeccables. Il y a beaucoup de très bonnes entames de match. Il y a beaucoup de séquences où il sait utiliser le temps mort au bon moment et tout. Enfin, vraiment, moi, je me régale devant le coaching de Mazzulla depuis ce début de saison.
C'est une de mes équipes des Celtics préférées de ces dernières années. Hein.
Genre, honnêtement,
il régale.
Énormément de bons choix, alors qui après sont extrêmement bien retranscrits par les joueurs et tout. Mais Brown et White font grave le boulot, mais... Pritchard titulaire, c'est pas une surprise, entre guillemets, genre même moi je serais arrivé, de toute façon naturellement on va mettre Pritchard titulaire. Par contre, début de saison avec Josh Minot, puis ensuite tout d'un coup, boum, attendez, regardez Jordan Walsh, ça c'est du coaching. Ouais. La façon dont il met Nemias Keita dans son rôle et tout, c'est du bon coaching. La façon dont il utilise les quelques remplaçants, enfin, c'est de l'excellent boulot. Et puis bon, les Celtics sont dans le top 6 de l'Est avec l'effectif qu'il a. Moi je trouve ça vraiment... Vraiment du très très bon boulot. Donc je l'ai mis deuxième.
Je comprends. Moi j'avoue, évidemment, tu l'as vu dans le dernier apéro, je suis un fan incontesté de Joe Mazzulla et de ce qu'il fait. D'autant plus avec les attentes qui étaient autour du tanking. Malheureusement, c'est une équipe à 60 wins l'année dernière. Je ne sais pas à quel point un coach qui, malgré tout le contexte qu'on dit, hein, qui passe de 60 wins à peut-être qu'ils vont être à 45, 46, peut être sur le podium. Mais ça n'enlève en rien l'énorme crédit qu'il a. Et donc, alors là, je suis fasciné parce qu'après on va parler de mon podium. Il y a tout ce truc autour de Mitch Johnson.
Ah bah moi je trouve que Mitch Johnson, l'année dernière j'avais vu beaucoup les fans...
Je suis curieux d'avoir ton avis et l'avis des gens sur Mitch Johnson.
Moi j'ai vu beaucoup de fans des Spurs l'année dernière dire Mitch Johnson, et je pouvais comprendre un peu sur la fin de saison, des choses et tout, je comprends. Moi sur ce début de saison, le coaching de Mitch Johnson, honnêtement, c'est du lourd. Et je pense que si Wemby s'était pas blessé, on aurait moins vu. Ils auraient peut-être limite même un peu meilleur bilan, même si le bilan des Spurs, il est vraiment pas dégueu, attention. Hein,
c'est très très bien.
Ouais. Mais ils auraient peut-être un meilleur bilan encore avec Wemby, tu vois, parce qu'on voit bien que l'autre, il peut te faire gagner des matchs quand même. Hein, quand même. Mais pardon, genre on lui enlève Wemby, on lui enlève tout d'un coup Harper, Castle, machin. Et il trouve des solutions tout le temps. Les mecs connaissent leur rôle, il utilise bien son banc. Il a mis Fox dans les bonnes conditions qu'il fallait, au moment où il fallait, pour que le mec pèse quand il faut, quand on a besoin, parce qu'il n'y a pas les autres joueurs. Ensuite, là, il fait revenir les mecs, Dylan Harper, et Castle, et Wemby. Et donc, c'est quoi l'étape d'après? Une fois qu'il va être au complet, ça va être la meilleure équipe de l'Ouest? Non, non. Il faut reconnaître le travail du coach. Je trouve que Mitch Johnson faisait des erreurs un peu, à mon sens, erreurs, des trucs un peu chelous la saison dernière. Et là, je trouve que déjà, putain, par rapport au petit bazar. Alors évidemment, il a l'avantage, et moi c'est pour ça qu'il est que troisième, parce qu'il a l'avantage de ne pas avoir tant de pression que ça. C'est-à-dire que si il faisait des erreurs et tout, on dirait, oui, mais attends, c'est difficile, il n'y a pas Wemby. Ah, mais attends, c'est... Non. Ok, il y avait des circonstances déjà atténuantes au départ, mais en fait, il s'est vachement bien débrouillé. Et c'est un des critères qu'on a évoqué au début de cette vidéo, c'est-à-dire que au début de cette séquence sur le coach de l'année, c'est la qualité, la faculté du coach à s'adapter en fonction des aléas d'une saison ou d'un match.
Oh bah ça.
Et donc, pour moi, Mitch Johnson, là, fait partie des tout bons. Et si les Spurs passent de... vous étiez combien de tiers l'année dernière? 15e? 12e?
12, 13.
Ouais. 12e à 5e ou 4e, on va faire quoi? On va dire ah bah, bien joué Wemby. Oui, on va dire bien joué Wemby, mais
non, on va dire bien joué Wemby, Harper, Castle, machin et tout, mais Mitch Johnson aussi.
Quand même. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui trouvent bien leur rôle bien vite là, je trouve, bien facilement. C'est magnifique tout ça. Ça roule tout seul. Enfin, tu vois, Devin Vassell qui est en feu. Enfin, il y a plein d'éléments qui le favorisent. Il y a plein d'éléments qui auraient pu le défavoriser, les blessures et tout. Et au milieu de tout ça, il se débrouille super bien. Donc, moi, je l'ai mis sur mon podium. Je sais que dans la fanbase des Spurs, ça m'a l'air très, très, comment dire, mitigé.
Ouais, il y a tout. Moi, je suis plutôt sur ton curseur. C'est-à-dire, je trouve qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et il a quand même grave géré compte tenu du contexte, là.
Et puis je suis désolé, hein, le match qui a eu lieu là face au Thunder, en termes d'application défensive et de préparation de ces jeunes, ça c'est la marque d'un coach qui a son groupe. Hein. Je suis désolé. Hein.
Ouais,
là franchement, pour que les gars puissent être prêts comme ça, même tu vois, il en parlait là, l'intégration de Wemby en sortie de banc, c'est des petits détails, mais ça montre que le coach vraiment est en... Il a cette synchronicité avec son effectif.
Ouais, et puis tu vois, Dylan Harper, il a du talent, c'est évident. Quand il rentre en jeu, ça sent que ça a bossé avant, il sait où se placer, il sait comment prendre les espaces, et tout. L'équipe est en place.
Je suis d'accord.
Et c'est un coach qui, à mon avis, va faire progresser les jeunes. Je pense que les Spurs se sont pas trompés.
Je pense aussi le
descendre. Après, faudra voir les playoffs et tout.
Ouais.
C'est encore un coach qui
puis
doit
tu
prouver.
Tu prends la place de Pop et tout, ce qui est le pire.
C'est pas facile.
Ah, c'est le pire poste au monde.
C'est pas facile. Tu peux pas faire mieux déjà. C'est mort. Enfin,
c'est impossible.
Eh, on vous souhaite qu'il fasse mieux, hein. Mais genre, voilà. Tu feras pas mieux. Voilà. Boum. Alors démerde-toi avec ça.
Non, c'est sûr.
Franchement, moi je l'ai mis. Alors donc attends, bouge pas. Je remets ton podium.
Alors toi, tu as donc Jay Bickerstaff.
Moi j'ai Bickerstaff, Mazzulla, Mitch Johnson. Maintenant on va décomposer le tien.
Et moi j'ai Eric Spoelstra, Mark Daigneault et Jay Bickerstaff. Alors on a parlé de Jay Bickerstaff. Je trouve que cette course est très ouverte au coach de l'année. Je voulais juste dire deux choses. Déjà on va parler français. Oui, Mark Daigneault, le Thunder, tout ça c'est très fort. Non mais lol. Responsabilités premières d'un coach, c'est d'avoir une équipe qui est prête des deux côtés du terrain tous les soirs et qui ne prend aucun match pour acquis. Il n'y a personne qui fait mieux là cette saison que Mark Daigneault.
Personne.
Le Thunder joue bien. On a parlé de toutes circonstances. Allez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Holmgren, il n'y a pas d'Hartenstein, il n'y a pas de Jan Williams. Tiens, on va faire entrer AJ Mitchell. Pas de problème, AJ Mitchell. Et puis parfois, Brandon Carlson, tiens, on est en back-to-back à Utah, bah, tu vas nous jouer les minutes de Chet Holmgren et puis tu vas être. Ce que fait Mark Daigneault avec son groupe, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et je ne veux pas que dans l'aspect complètement historique de leur saison, là, on le prenne pour acquis. On verra après pour le défenseur, pour le MVP, pour ceci, cela. Mais Mark Daigneault est à la tête aujourd'hui de la meilleure défense et du meilleur effectif de NBA. Et les types jouent bien tous les soirs. Ça exécute fort. Et même dans les micro-détails, tu vois, limite, je regrette de ne pas l'avoir foutu un. Même dans les micro-détails, on a demandé quoi pendant les previews? Qu'il y ait un petit peu plus de responsabilité offensive pour Chet Holmgren? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire avec Chet Holmgren là sur le début de saison?
En plus, il a profité de la blessure de Jalen Williams pour faire ça. Non, mais c'est
pour faire
joué,
ça.
Non, mais super.
Genre, en fait, moi, tous les soirs, je vois le Thunder jouer avec certaines de ses armes et on a commencé à faire des débats. Genre, quoi, le Thunder, s'ils étaient à l'aise sans Shea, ils seraient en finale NBA. Tellement on se fait chier dans l'Oklahoma et tellement le mec gère son groupe qu'aujourd'hui, tu enlèverais Shea Gilgeous Alexander pendant 3 semaines. Moi, je pense que la machine, elle déroule. Et ça, mais pour 90% des franchises NBA, c'est un enfer. Tu enlèves Anthony Edwards des Wolves, tu te poses des questions. T'enlèves Jokic et Nuggets, tu commences à te faire caca dessus. Chez, là, ce qui se passe avec Mark Daigneault, c'est tout bonnement historique. J'aurais pu le mettre en 1.
Moi, je l'ai pas mis parce que je me suis projeté dans la course. Et je pense qu'il y a.
Si le mec a 75 wins, on fait comme.
Et c'est pour ça que regarde, j'ai écrit là en sleeper. Parce qu'effectivement. Ne serait-ce que, sans parler même de 75 wins, ne serait-ce que l'année dernière 68, hein, attention.
Mais s'ils font 70 wins, on
ne serait-ce que plus de wins que l'année dernière, il va être coach de l'année.
Parce qu'il n'était pas podium l'année dernière.
Hein? Oui.
C'était Atkinson, Udoka et JB. Hein.
Oui, mais c'était une erreur.
Oui, non, mais.
C'était le coach de l'année.
Oui, mais.
L'année dernière pour moi.
Bah,
alors que cette année, je ne dis pas qu'il ne peut pas être coach de l'année, au contraire, il peut tout à fait l'être. Mais je pense que limite cette année, il y a presque plus de risques pour lui, dans le sens où si par exemple il y a un petit coup de mou. Je sais pas, tu vois, un petit coup de mou là, en janvier, en février, en mars.
Deux adversaires qui passent les 95 points.
Non, mais tu sais, un petit coup de mou, genre, qui fait que du coup, ils ont, à la fin, ils ont moins de wins que l'année dernière. Ça sera difficile. Et donc, moi, j'ai privilégié.
C'est mal barré, hein, ton scénar. Hein.
Bah, c'est mal barré, bien sûr.
Moins de wins que l'année dernière.
Et donc, c'est pour ça que j'ai. Bah, tu peux pas savoir, faudrait un coup de mou. Ça arrive à toutes les équipes, ça peut arriver.
C'est mal barré.
Ouais. Ah mais bien sûr. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faudra lui filer carrément le coach de l'année. Ah ouais. C'est pas une histoire de podium ou quoi, ça sera le coach de l'année. Donc moi je l'ai mis en sleeper. J'ai aujourd'hui, au moment où on parle, j'ai trois mecs qui se battent avec Marc Degnaud dans la course et que Marc Degnaud va être un peu suspendu. Moi, c'est la... pour moi l'année dernière, c'était le coach de l'année, il devait l'avoir.
Ah, alors j'entends, mais elle était tellement belle la course dernière, les Rockets qui explosent, les Cavs qui sont injouables.
Je dis pas que
et les Pistons qui font un truc record. C'était chaud.
Bon, après, il met Udoka, fait du bon boulot aussi. Hein. Même cette année, même
bien
cette
sûr. Mais l'année dernière, Udoka, il débarquait avec les Rockets, c'est deuxième.
Non, non,
de
mais
conf.
Tout à fait. Mais je veux dire, l'année dernière, ils auraient filé le coach de l'année à Marc Degnaud, qui aurait été dégoûté. Il a gagné 68 matchs.
Je pense que les fans des Cavs auraient dit qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule, Atkinson vient d'arriver, on est numéro 1 de la NBA.
Non, enfin, numéro 2 derrière Marc Degnaud.
Oui. Et puis bah, je me suis fait un kiff en 1. Parce que c'est une des phrases qu'on répète le plus.
Là, je suis surpris par contre que tu aies mis 1.
Je me suis fait un kiff, je vais pas vous mentir. On
je
arrête pas de
pas
répéter.
Podium à la fin aussi.
Ah si quand même. Ah, ouais. Bah alors à ce moment-là, faut qu'on arrête parce que les résultats ne sont pas exceptionnels pour le Heat. Ils sont dans une bonne course.
Au play-in, quoi. Mais ils sont serrés. Mais...
ils sont dans cette course-là. Et on va voir comment ça se passe. Juste, moi, je lui donne mon vote à 30% de la saison parce qu'il y a eu une modification identitaire comme rarement j'en ai vu, moi, dans la NBA récente. C'est-à-dire que le Heat est une équipe dont on se foutait de la gueule offensivement ces dernières années. Et il y a une révolution interne. Et je trouve que les plus grands coachs sont ceux qui s'adaptent par rapport à la modernité de leur ligue et par rapport à leur effectif. On a parlé combien de fois de ça avec Popovic, où d'abord on avait joué dans les années 2000 au poste avec Duncan, puis ensuite on va jouer un peu plus sur Ginobili, et puis les gars, faut qu'on space avec des shooters à 3 points et Tony Parker qui drive. Les grands coachs s'adaptent. Tous les grands coachs.
Popovic, il faisait ça et en gagnant.
Et en gagnant.
Là, Spoelstra, c'est un peu plus mitigé. Moi, ce sont clairement les résultats collectifs du Heat qui m'empêchent de rentrer Spoelstra dans mon top 3.
Je suis d'accord.
Sinon, tactiquement, et sur le truc, je suis d'accord avec toi.
Et moi, je vais te dire, c'est un kiff. Là, aujourd'hui, ils sont play-in, ils sont barely.
Oui, c'est serré, ça peut changer.
Voilà. Ils ont eu 5 défaites de suite, donc là, ils ont pris un gros coup de mou. Mais je voulais me faire un kiff sur Spoelstra parce que bah, c'est une des phrases que je déteste le plus dans la NBA actuelle, c'est que cet homme n'a toujours pas de trophée de coach de l'année. Je suis d'accord avec toi, ça va être très difficile, mais je me suis dit si je pouvais lui donner du love, je la donne en décembre. Je pense qu'en avril, ce sera pour d'autres garçons.
Ah, je pense qu'il sera même pas podium.
Voilà.
Après, ça dépend si le Heat remonte à fond, mais je pense qu'il sera pas podium.
J'ai pas de problème à jeter ma tablette et me dire elle était caduque en décembre. Si au moins il avait un petit peu de love, il y a des très bons coachs qui font du bon boulot. Il y a vraiment des coachs. Il y a évidemment parce que
c'est Rajakovic.
Rajakovic, j'allais dire, c'est les fans de Toronto,
citer, hein.
N'entendent pas leur nom. Il y a Rajakovic. Tu as parlé de Adelman en dépit des grosses absences. Hein, Christian Brown, Aaron Gordon, ça joue bien à Denver.
Hein. Ça joue bien à Denver. Après, bah ouais, Jokic Murray pour construire une attaque, c'est très pratique. Mais quand même. Il est là. J'aime bien le boulot dans la continuité. Ce qui est tenté par Udoka, à qui, il faut le rappeler, on a enlevé son meneur titulaire juste avant la saison.
Absolument.
On a cité Jordan Ott. Et donc, j'ai un énorme sleeper qui s'appelle Marc Degnaud, que j'aurais pu mettre sur ma tablette. Et j'ai un petit sleeper. Petit. Tranquille, c'est Jason Kidd. Mais c'est un tout petit pour rentrer sur le podium. Peut-être pas pour être coach de l'année. Moi, je pense que Dallas va remonter.
Oui, ça va remonter.
Et si Dallas va remonter, à un moment donné, on va devoir se réveiller et dire putain.
Ah, c'est
Jason
fort.
Kidd, en fait.
Compte tenu du fait qu'il perd et qu'il
y a beaucoup de coachs qui auraient déjà perdu leur vestiaire là, dans le merdier que c'est là, qu'il y aurait eu des couilles, des machins. Ouais. Là, ça tient la route. Alors, au niveau comptable, évidemment, tu peux pas rentrer Jason Kidd dans la course au coach de l'année aujourd'hui, c'est impossible. Mais avec du AD, du Kyrie, du machin, du truc qui. Je veux bien voir. Petit sleeper, gros sleeper Marc Degnaud, petit sleeper Jason Kidd.
Tout à fait. Je récapitule donc. On est d'accord avec Alex pour le moment. Jane Duren est leader de la course au Most Improved. Dites-nous si vous êtes d'accord. On a une bataille entre Quentin Grimes et Jaime Jaquez sur le trophée de 6e de l'année.
Oui.
Et Alex à J.B. Kerstaff. J'ai mis Spo pour un petit peu de love. Sinon, c'est Marc Degnaud pour le leader de la course au coach de l'année. Dernière question rigolote pour finir. J'aime bien faire les trophées inversés. On les fait juste en rapide là. Worst coach.
Le worst coach, est-ce que c'est forcément un mec tout en bas? Sûrement. C'est Doug Christie.
Franchement, Brian Kiff, là, va falloir y aller. Hein.
Oh non, il a vraiment un effectif moins fort que les autres.
Ouais, mais ça pue la merde.
Non, mais est-ce qu'il est
le
moins
jeu
bon
est nul.
Il est moins bon que Billy Donovan?
Billy Donovan, sur les deux premières semaines de la saison,
ouais,
il
a fait
bien.
Deux bonnes semaines.
Ouais.
Ok, est-ce qu'il est vraiment moins bon que Doug Christie? Ok, Doug Christie nous fait jouer un Français, ça nous fait plaisir de voir Max Reno sur le terrain.
En fait, j'avais le worst improved player à Sacramento, mais c'était vraiment... c'est la triplette, là. C'est Sabonis, DeRozan, Lavine, là. C'est terrible. Worst improved, toi, c'est Embiid.
Doc Rivers?
En worst coach?
Il fait pas un beau début de saison. Il fait pas un beau début de saison, Doc.
Il sera sorti le temps que cette vidéo sorte.
Il fait pas un beau début de saison.
Et worst remplaçant, là, un bon gros sixième homme qui a du temps de jeu, mais qui fait nimp. J'essaie de voir, là, un petit peu, là. Il y a des mecs qui ont des gros temps de jeu mais qui font
bonne
vraiment
question,
Mike Conley, c'est pas génial à Minnesota.
Ah, je te confirme.
Podziemski.
Podziemski, c'est pas terrible non plus.
Buddy Hield.
Il y a du monde aux Warriors.
Il y a du très bon monde à Golden.
Il y a du client.
Dites-nous ce que vous pensez évidemment de ces trophées. On se retrouve demain pour deux autres trophées. Ce sera rookie et défense. On vous fait des très très gros bisous.
Ciao
à très
monde.
Vite, des bisous.
Ciao.